essayer de s'interroger sur quels étaient leurs rôles précis de ces couches intermédiaires. Donc quel rôle elles ont véritablement joué dans les mobilisations récentes, quel rôle elles jouent dans les contextes électoraux, qui étaient les opposants à Vladimir Poutine, les participants au mouvement Occupy Wall Street, les indignés espagnols, etc. Et donc on a plusieurs enquêtes et reportages, dont un reportage qui nous mène de Londres à New York, en passant par Nashville et le Chili de Raphaël Kempf, qui est allé voir au concret comment ça s'organisait, quelles étaient les revendications de ces gens, d'où ils venaient, est-ce qu'il y avait des points de concordance entre les différents pays. Et plus largement, enfin, et ça c'était le grand papier de cadrage qui est un papier historique, on s'interrogeait sur la question des stratégies d'alliance de ces classes moyennes. Avec quelle classe elles se solidarisent? Est-ce que ce sont plutôt tournées vers, historiquement, vers les classes populaires pour essayer de mettre en œuvre des projets de changement social? Ou alors au contraire, est-ce qu'elles se sont alliées plutôt avec les classes dominantes pour favoriser le conservatisme et donc le maintien de l'ordre existant? Et donc un article de Dominique Pinsol revient sur deux siècles d'alliances de classes entre classe populaire, classe ouvrière et classe moyenne d'un autre côté, pour voir quels ont été les échecs, les succès, donc dans les pays d'Europe au 19e et 20e siècle, en Amérique latine. Et dans l'article d'Alain Grèche, il s'interrogeait sur la même problématique à propos des pays du tiers-monde. On peut voir que c'est des logiques assez différentes.
Alain Grèche.
Oui, c'est-à-dire la problématique des couches intermédiaires ou des couches moyennes depuis le développement de la pensée socialiste en Europe, c'était l'idée qu'il y avait une classe des capitalistes, il y avait une classe ouvrière, les prolétaires exploités, et entre les deux, il y avait toute une série de catégories intermédiaires, et que le problème de la manière dont ces classes intermédiaires se situaient pouvait être important, est-ce qu'il fallait s'allier à elles ou non, etc.
Il y a un exemple qui est donné sur le Front populaire. Vous racontez comment, en 1936, après que les forces populaires, après les élections, aient continué le combat avec des occupations pour obtenir ce qu'on sait sur les congés payés, les 40 heures, etc., comment la classe moyenne, à l'époque, s'est retournée contre la classe populaire et a manifesté en disant, voilà, ils vont bloquer l'économie, etc. Il y a ces moments-là.
Mais c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi, dans tous ces combats, à quel point ça dépend des objectifs fixés à un moment. C'est-à-dire que on a vu très bien ce débat durant la guerre civile en Espagne, c'est-à-dire entre un courant du Front populaire qui pensait que la révolution sociale était la priorité et un courant, paradoxalement ou pas, soutenu par les communistes qui disait que la priorité c'était la lutte contre le fascisme et que donc du coup il fallait rassurer les couches moyennes et ne pas aller au-delà d'un certain seuil. Mais là aussi, cette position des couches moyennes dépend des objectifs que les forces politiques se fixent à un moment et qui diffèrent de manière importante. Mais de toute façon, ces problèmes se posent parce que la question est celle d'une... Comment et autour de quoi on constitue une majorité politique ? Et jamais dans l'histoire du mouvement, disons, ouvrier et socialiste, la classe ouvrière n'a jamais vraiment été majoritaire au sens électoral ou démographique du terme. Elle avait besoin des employés, elle avait besoin d'une certaine manière d'une partie de la petite bourgeoisie.
Et elle n'a jamais été systématiquement progressiste, contrairement à ce qu'on souhaiterait.
Mais là aussi, on peut voir, j'ai une classe ouvrière, c'est-à-dire quand on parle de progressisme, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport aux transformations sociales, aux augmentations de salaire ou aux mœurs, par exemple, qui est devenu un des éléments, enfin dire... Le conservatisme d'une partie de la classe ouvrière est devenu un des éléments par lesquels la droite essaye de maintenir son hégémonie sur cette classe ouvrière en utilisant ce qu'ils appellent les valeurs, avec d'autant plus de force que la gauche souvent a abandonné ce qui constituait le cœur de son discours. Ce n'est pas un discours simplement revendicatif, augmentation des salaires, etc., mais aussi un discours de valeurs.
Serge Halimi.
Oui, pour revenir à cet exemple concret du Front populaire, il y a à l'époque un parti qui incarne les classes moyennes, qui est le Parti radical. Et on constatera un basculement d'une étape à l'autre. Première étape, le Parti radical est mobilisé avec la gauche, parce qu'à cette époque, l'objectif est de lutter contre l'extrême droite, contre les ligues, contre le fascisme. Donc une alliance à gauche contre l'extrême droite. À partir du moment où cette alliance est réalisée et débouche sur le succès électoral, à partir du moment où les grèves se déclenchent dans les usines, une partie de cette base qui votait pour le Parti radical s'inquiète, et son inquiétude n'est plus d'abord l'inquiétude de voir le fascisme arriver au pouvoir, mais l'inquiétude de voir le chaos social s'étendre en France à la suite des grandes grèves ouvrières.
Gaumont Actualité, 1er juin 1936.
À Paris et dans la région parisienne. Nous lutterons